Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre rendez-vous européen proposé par l'Europe Direct Strasbourg. C'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Pour cette émission de rentrée, nous recevons la députée européenne Claire Fittard. Bonjour Madame Fittard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc députée européenne socialiste, élue lors des élections de juin 2024, donc l'année dernière. Vous siégez au sein de la Commission des affaires économiques et monétaires. Vous êtes également impliquée dans la commission de l'agriculture, si j'ai bien suivi, et êtes vice-présidente de la délégation avec les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique, qu'on appelle ACP. C'est bien ça.
Tout à fait.
Vous êtes aussi élue régionale en Occitanie. Votre parcours vous a donc conduite des responsabilités locales aux grands enjeux européens. Il y a sans doute plus de liens qu'il n'y paraît et nous y reviendrons très certainement au cours de notre échange. Alors Madame Fittard, nous vous rencontrons aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion de la session plénière de rentrée, marquée par un rendez-vous incontournable de la vie institutionnelle européenne, le discours sur l'état de l'Union, prononcé le 10 septembre par Ursula von der Leyen au début donc de son second mandat. C'est son premier discours sur l'état de l'Union qu'elle doit prononcer chaque année. Alors c'est un moment emblématique de la démocratie européenne, car Ursula von der Leyen y a présenté à la fois son bilan et un discours d'orientation pour l'avenir. Malheureusement, cet exercice reste assez méconnu du grand public, que ce soit européen, mais français également. Ce sera donc l'occasion avec vous d'y revenir. Mais avant cela, donc, j'aimerais que nous parlions de votre parcours et de cette première année passée au Parlement européen. Vous avez donc été élu pour la première fois l'année dernière, après un engagement politique en Occitanie. Donc après un an entre Strasbourg, Bruxelles et Groet, je crois votre ville du Tarn, quel regard portez-vous sur vos premiers pas d'eurodéputé ?
Alors juste vous dire que ma commune, elle s'appelle Groet.
Groet.
En occitan, ça se prononce « ye » et pas « le », mais on ne peut pas le savoir si on n'est pas occitan.
C'est intéressant pour nous, les Alsaciens, avec tous nos noms de communes. Je comprends que déjà on se trompe, mais je ne savais pas. Merci beaucoup.
Non, c'est avec plaisir. Et donc voilà, vous avez reconnu l'accent tarnais qui est le mien, puisque je suis vraiment une tarno-tarnaise. Bien écoutez, c'est vrai que c'est un mandat assez extraordinaire, celui de députée européenne. Et au bout d'un an, moi j'ai fait campagne il y a un an sur une liste qui s'appelait « Réveiller l'Europe », portée par le Parti Socialiste et Place Publique. Et je pense que le premier constat, c'est d'abord, les événements nous ont donné raison. Trump est arrivé à la tête des États-Unis et nous étions véritablement dans cette crainte il y a un an et dans cette volonté de réveiller cette Europe pour qu'elle se protège, notamment nos populations, mais aussi notre économie, nos valeurs démocratiques qui sont très importantes dans l'idéal européen, mais aussi bien entendu protéger la paix qui est l'ambition historique de l'Europe. Et dans mon quotidien, alors que l'Europe peut paraître très éloignée de nos concitoyens, moi, il y a de plus en plus d'interlocuteurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit aussi des personnes impliquées dans des associations, me disent « mais que peut faire l'Europe pour nous ? Nous en avons besoin. » Tout le monde sent bien le moment de gravité. Et je crois que ce mandat-là, moi, je l'ai en tout cas inscrit dans cette volonté de retrouver une Europe souveraine, une Europe puissante. Et le combat, il est à mener. Et moi, vraiment, mon quotidien, il est de construire dans tous les dossiers que je porte et dans tous les discussions, que ce soit autant au niveau européen qu'aussi dans sa déclinaison locale, parce que je pense que c'est très important de faire exister
justement
l'Europe.
Vous avez connu donc cette échelle régionale, vous la connaissez toujours, vous avez dit que vous êtes vraiment une tarno-tarnaise. L'échelle régionale, l'échelle européenne, quels sont pour vous les liens que vous faites entre ces deux dimensions de l'action publique?
Alors, il y en a deux. Le plus important, c'est d'avoir les pieds bien ancrés dans la terre et de rester dans ce quotidien de nos concitoyens. Donc ça, pour moi, ça, c'est très important. Et puis la deuxième chose, c'est que les régions, que ce soit en France, mais dans toute l'Europe, ce sont des échelons vraiment des interlocuteurs de l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle conçoit aussi son fonctionnement en s'appuyant sur les régions. Donc, par exemple, les régions, elles gèrent tout un tas de fonds européens, fonds de cohésion, Lyon, FEDER, FSE. Il y a une déclinaison territoriale avec des adaptations en fait au contexte local, mais c'est bien ça, comment on fait cette Europe de proximité et du quotidien avec des interlocuteurs qui ont l'habitude du contexte spécifique régional. Donc le lien, il se fait toujours, et autant bien j'essaye du bas vers le haut, c'est-à-dire faire remonter les préoccupations, être un peu l'accent d'Occitanie à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi expliquer sur le terrain ce qui se passe au niveau européen et surtout comment mieux mobiliser les fonds européens, mieux mobiliser l'influence européenne pour eh bien, porter une Europe plus juste, une Europe plus solidaire dont nous avons tant besoin.
Alors passons à l'actualité immédiate de cette session plénière, c'est ce discours sur l'état de l'Union de Madame von der Leyen.
Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves. Make no mistake, this is a fight for our future. So my pitch today is a pitch for unity. Unity between member states. Unity between European institutions. Unity between the pro-European democratic forces of this house.
Alors voici l'introduction de Madame von der Leyen, un discours un peu de combat sur l'idée qu'il faut que l'Europe se batte pour ses valeurs. Alors j'aimerais avoir un petit peu votre regard sur ce cinquième discours sur l'état de l'Union, mais le premier prononcé dans cette législature. Un discours qui intervient donc à un moment crucial, marqué par un scénario mondial de plus en plus instable. Qu'en avez-vous retenu, vous, personnellement ?
Alors, c'est un sentiment très partagé, c'est-à-dire que il y a le moment est un moment de gravité. On venait d'apprendre que des drones venaient de pénétrer sur l'espace aérien polonais. Donc un acte très fort et très grave pour la suite, qui n'est qu'un épisode de plus hein, dans cette instabilité géopolitique et bien entendu ce contexte de guerre sur le continent européen, mais bien entendu avec beaucoup d'autres scènes de guerre affreuses dans le monde. Donc il y a clairement des avancées et vous l'exprimez, ce ton offensif, notamment sur la scène internationale, pour moi a été extrêmement apprécié avec de vraies propositions. Notamment, moi, des sujets sur lesquels je suis très attachée, le logement, c'est le quotidien de nos concitoyens, c'est ce qui pèse aujourd'hui de plus en plus dans notre pouvoir d'achat. Donc l'Europe, elle a son rôle à jouer sur ce dossier-là. Il y a des annonces qui ont été faites. Là aussi, sur la souveraineté énergétique, par exemple, ça aussi, c'est le quotidien. Hein. Nos factures d'électricité, elles ont beaucoup augmenté, mais à la fois, donc comment on fait, on améliore la vie des gens et comment aussi on devient indépendant avec notamment des énergies plus renouvelables, plus durables, parce que c'est un enjeu d'abord de souveraineté, bien entendu de durabilité environnementale, mais aussi de souveraineté. Mais vous savez, en politique, c'est comme un amour. Il y a les déclarations d'amour et puis il y a les preuves d'amour. Et objectivement, et c'est là mon sentiment partagé, moi j'attends les actes. Et il y a eu véritablement des actes contradictoires avec les affirmations qu'elle a posées hier matin. Et par exemple, l'un des actes pour moi qui a été totalement contradictoire par rapport à ce qu'elle a annoncé, c'est cet accord avec les États-Unis. Cette vassalisation par rapport à Trump, si vous voulez, on y reviendra, mais ça c'est un acte contradictoire par rapport à ce qui a été dit. Et l'autre acte, c'est aussi un sujet d'actualité, le budget. Ça c'est les preuves d'amour. Hein. Y a l'ambition qu'on se donne avec des orientations politiques, mais ensuite il y a les moyens qu'on met pour permettre d'atteindre ces objectifs ambitieux. Et si nous n'avons pas les moyens, on biaise totalement et on s'enferme parce que nous sommes dans une crise démocratique aujourd'hui en Europe, dans le monde. Donc donner confiance aux gens, c'est respecter la parole que nous avons. Et là, je ne voudrais pas qu'il y ait de belles déclarations et ensuite, soit des actes contradictoires, encore une fois, ou en tout cas, pas les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs.
Moi, il y a un terme qui n'est pas revenu, par exemple, c'est l'agriculture. Je n'ai pas entendu le terme agriculture dans le... Alors que vous, vous êtes quand même attaché déjà en tant que venant d'un milieu rural. Ça ne vous a pas surpris que la question agricole ne soit pas soulevée dans ce discours ?
Alors, je l'ai lu très attentivement et il y a bien le terme d'agriculture dans le discours, mais bien évidemment que ce n'est pas suffisant. Et moi, je porte aussi un combat très important qui sont d'ailleurs en lien avec ce qu'on a vu en termes d'épisodes terribles durant l'été avec ces feux qui ont envahi le sud de l'Europe. Alors, bien sûr que ce sont des phénomènes que nous connaissions, mais pas avec cette ampleur, et on voit bien que le réchauffement climatique accélère et augmente les conséquences. Nous voyons bien que notre agriculture, c'est nourrir, bien entendu, d'abord nos populations, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une vraie logique d'aménagement du territoire. Et là où il n'y a plus d'agriculture parce que la rentabilité n'est pas assurée, parce que nos agriculteurs n'ont pas les revenus suffisants pour pouvoir vivre de leur travail, eh bien, il y a cette dévastation par ces phénomènes, notamment les incendies. Donc il faut aussi que nous reconnaissions cette agriculture méditerranéenne, avec ce rôle, bien entendu, pour nourrir, mais aussi pour aménager et prévenir et s'adapter, bien entendu, au réchauffement climatique. Donc oui, vous avez raison, ça n'a pas eu la place que notre agriculture mérite, surtout que la colère est immense, hein, dans toute l'Europe. Alors, vous savez, le mouvement de colère des agriculteurs en France, il est parti de ma région, hein, d'Occitanie, parce que c'est là où nous avons les revenus moyens agricoles les plus faibles de France. Et pourquoi ? Parce que nous avons, en raison notamment de notre climat, les rendements les moins importants. Et aujourd'hui, l'agriculture européenne telle qu'elle est pensée, eh bien vous savez, c'est 80% des subventions qui vont à 20% des exploitants agricoles. Donc on voit bien qu'il y a un manque de redistribution, et notamment dans ces régions comme la mienne, où nous n'avons pas les mêmes prises en compte des spécificités territoriales. Donc l'agriculture, et il y a eu des annonces au mois de juillet, hein, avec sur la future PAC qui interviendra à partir de 2028. Donc oui, ça fait partie des regrets.
On reviendra encore un petit peu sur l'agriculture tout à l'heure. On va rester sur le discours sur l'état de l'Union, sur les questions des accords commerciaux, puisqu'ils ont été négociés au mois de juillet avec M. Trump en Écosse. Alors l'Union européenne a conclu donc cet accord commercial avec les États-Unis. Comment le jugez-vous, sachant que j'imagine bien que c'est pas positif?
Non, c'est un déséquilibre flagrant. Les États-Unis imposent 15% de droits de douane concernant une majorité de produits américains, l'Union européenne n'en impose aucun. Donc on est dans ce déséquilibre fondamental. Mais au-delà, il y a un autre aspect qui est très important. Donc dans le deal, hein, maintenant, c'est un terme qu'on utilise fréquemment, il y a le fait que l'Union européenne va acheter des hydrocarbures, notamment aux États-Unis, et investir aux États-Unis. Ça va en contradiction totale avec les recommandations du rapport Draghi et l'État que nous avons eu il y a un peu plus d'un an, où la recommandation et surtout le constat, hein, d'ailleurs assez accablant, c'est que nous avons un besoin crucial d'investissement au sein de l'Union européenne. Plus de 800 milliards d'euros indispensables en termes de réindustrialisation de l'Union européenne, de production en fait, hein. Ça faisait partie des actes contradictoires que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je me bats pour que la France, elle puisse défendre, bien sûr, l'ensemble de ses industries, notamment, qu'elle a perdues. Mais ça, c'est valable, bien entendu, au niveau de l'ensemble du continent européen et de l'Union européenne. Là, on ne remplit absolument pas nos objectifs et on va même à l'encontre des besoins européens.
Mais elle se défend en disant qu'elle a négocié le meilleur accord possible. Elle apporte, grâce à ça, une forme de stabilité commerciale avec les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Elle dit, moi, voilà, c'est négocié, c'est un bon accord parce que c'est le meilleur possible. Et en plus, ça apporte une stabilité.
Je respecte le travail effectué. mais je suis en totale opposition avec cette analyse. Moi, je pense que par définition, avec un populiste comme Donald Trump, il ne peut pas y avoir de stabilité dans les relations. D'ailleurs, au lendemain même du deal conclu, il y avait déjà une remise en cause par Trump, à nouveau, de toute la réglementation numérique que nous portons au niveau de l'Union européenne. Et ça, ça a été clairement affirmé hier, et ça, c'est très important, hein, que nous ayons cette souveraineté numérique encore à affirmer et à construire, mais en tout cas, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sur notre réglementation.
Vous parlez de ce fameux DSA, donc le Digital Service Act. Donc, nous, on a des règles et les entreprises américaines devront s'y soumettre.
Et en fait, l'attaque de Trump, ce n'est pas une guerre commerciale, c'est une guerre politique, en fait, sur les valeurs. C'est une attaque de notre modèle démocratique. On le voit bien, il y a soi-disant un accord économique qui est conclu, mais au lendemain, il y a à nouveau des attaques sur d'autres aspects qui peuvent paraître économiques, mais qui sont éminemment politiques sur le modèle que nous voulons porter, notamment avec cette conviction démocratique qui est l'identité européenne, qui n'est pas du tout portée par Trump, parce qu'il y a une alliance, ça le terme il est, je pense, vraiment évident, hein, transatlantique, entre Donald Trump et les populistes européens. Donc ça, ils ne veulent pas d'Europe, hein, ils veulent attaquer l'Europe. Donc il n'y aura pas de stabilité avec les États-Unis tant que Trump sera au pouvoir.
Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Ursula von der Leyen a défendu l'accord qu'elle a négocié avec certains pays d'Amérique du Sud, qu'on appelle l'accord du Mercosur, notamment avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay. Dans ce contexte de tension commerciale avec les États-Unis, elle dit ben voilà, moi je propose de nouveaux accords avec de nouveaux partenaires. Pourtant, là aussi, vous et votre famille politique êtes assez opposés au Mercosur.
Il y a la proposition en soi, hein, du Mercosur qui est véritablement, nous le pensons, hein, à l'encontre des intérêts européens, que ce soit pour nos agriculteurs, hein, parce que les importations, en fait, venant du Mercosur, c'est essentiellement des importations agricoles. Donc, véritablement, ça mettrait en danger, c'est un sacrifice de nos agriculteurs et de nos territoires. Mais il y a aussi un danger sanitaire, parce que les normes, déjà sociales, mais aussi environnementales de ces pays ne sont pas du tout comme les nôtres. Donc il y aurait une mise en danger de nos concitoyens avec les produits consommés. Donc ça, c'est le fond, bien sûr, avec les risques intrinsèques. Mais au-delà, c'est la vision de l'Europe que nous voulons porter. Ce libre-échange, sans aucune exigence de réciprocité, c'est de la concurrence déloyale. Alors que le projet, pour moi, pro-européen, c'est celui de la souveraineté, mais aussi de la protection de la paix, de nos valeurs démocratiques, mais aussi très concrètement de nos productions agricoles, de nos productions industrielles. La droite européenne, elle a construit un continent de consommateurs. C'est important. C'est important. Hein,
mais, rappelez, c'est un marché de 450 millions.
Exactement. Et c'est un pouvoir. Mais ce pouvoir-là, nous devons le mettre au service de nos populations pour pouvoir, là, véritablement, redevenir un continent de producteurs. C'est ça, la souveraineté et l'indépendance. C'est redevenir producteurs. Nous avons vécu des vagues de désindustrialisation massive. Nous sommes à la veille du même danger concernant notre agriculture. Les revenus de nos agriculteurs ne sont pas suffisants pour leur permettre d'avoir des perspectives et donc de s'engager à la fois. En effet, il y a une adaptation indispensable qui exige des moyens, mais il y a aussi cette ambition de nourrir l'Europe. Moi, je ne pense pas qu'on ne puisse que se tourner vers les pays tiers, vers l'extérieur. Je ne suis pas contre les échanges. Au contraire, moi, je suis internationaliste. Hein, je pense sincèrement que les échanges sont importants, que ce soit entre femmes et hommes, entre populations, mais bien entendu de biens, de services. Mais il faut que nous soyons dans une lutte contre cette concurrence déloyale dont l'Europe souffre aujourd'hui. Donc ce que nous exigeons à nos concitoyens, il faut que nous puissions l'exiger de toutes nos importations venant de pays tiers.
Il n'y a pas un risque d'isolement, je dirais, économique, finalement, si on se protège comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour nos producteurs de ne pas pouvoir exporter comme ils le souhaiteraient?
Non, je ne pense pas, parce que, justement, utilisons ce pouvoir d'être des 450 millions de consommateurs. C'est un vrai pouvoir économique dont aujourd'hui nous ne nous servons pas. Pas assez en tout cas. Et donc je pense que c'est sur ce mandat-là qu'on doit enclencher ce combat-là.
Au niveau de l'Union européenne, on va peut-être expliquer à nos auditeurs, il y a des budgets annuels, mais il y a surtout un cadre financier pluriannuel qui fixe un peu le contour de ce budget qui est en négociation. La Commission a présenté son projet de cadre financier pour 2028 à 2035. Quelle est votre position, vous, sur cette proposition? J'ai cru comprendre qu'elle était pour vous pas suffisante. Et en quoi souhaiteriez-vous la faire modifier?
Oui, donc voilà, ça c'est l'épreuve d'amour. Et donc, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est une vision pluriannuelle. Donc, et d'ailleurs, en tant que parlementaire, notre véritable capacité d'influence, elle est sur cette pluriannualité. Parce qu'il y a encore un peu de déficit démocratique au niveau de l'Union européenne et le Parlement n'a pas la même influence sur les budgets annuels que sur les budgets pluriannuels. Donc là, on parle de la période 2028-2034, donc ça peut paraître loin, mais en fait c'est demain. Pour nous, mais vous savez, le Parlement a été très sceptique, unanimement a reçu avec beaucoup de froideur cette proposition budgétaire, parce que d'abord, il y a l'ampleur du budget. On parlait tout à l'heure des questions agricoles. Vous savez, grosso modo, jusqu'à présent, le budget de l'Union européenne, c'était 3/3. 1/3 les politiques agricoles, 1/3 les fonds de cohésion, donc FEDER, FSE, qui viennent sur les territoires, et 1/3 où il y avait l'ensemble des autres politiques. Donc on voit bien l'importance de la politique agricole commune. Et là, dans ce premier budget, il y a une baisse de plus de 20% des crédits alloués à la politique agricole. Donc ça, c'est inacceptable. On ne peut pas être dans une renationalisation. C'est un peu technique, peut-être. Mais il faut avoir en tête que la Commission, là, elle a proposé de dire, eh bien, on fait ce budget, mais en termes de modalité, on va renationaliser l'ensemble des fonds européens et les États membres, ils pourront, puisque les fonds seront fongibles, décider de donner bien ce qui était à l'agriculture, ben donner plus sur la défense, par exemple, ou inversement, puisque ce serait à la discrétion des États membres. Donc on est bien sur un recul cette ambition européenne. Et il y a aussi une menace. Moi, je suis élue dans une région où je pense que c'est important d'avoir cette gestion aussi des fonds européens dans les régions. Et certains États membres pourraient remettre en cause aussi gestion de proximité. Moi, le fond de mon engagement, c'est la lutte contre l'extrême droite et tous les populismes. Faire en sorte que nous ayons moins de moyens à donner à nos territoires, que ce soit pour les politiques agricoles, mais que ce soit aussi pour les crédits d'investissement, c'est se donner encore aux populistes. Donc ne donnons pas d'arguments à l'Europe pour pouvoir justement faire monter ces populistes qui vont attaquer l'Europe et surtout nos valeurs démocratiques et monter les populations les uns contre les autres. Donc non, ce n'est pas une bonne copie, il faut la revoir.
Si on parle des populistes et de l'extrême droite, ça peut aussi nous amener à parler de la situation politique en France. J'aimerais revenir un petit peu sur l'actualité française. Après le vote donc de confiance qui n'a pas été donné à François Bayrou et sa démission, comment percevez-vous le climat politique en France? Et selon vous, cette instabilité, elle a-t-elle un impact aussi sur le poids un peu de vous en tant que député français? Est-ce que vous ressentez quelque chose de cette instabilité que nous avons depuis 2 années en France?
Ah oui, il y a des conséquences dans tous les domaines. Il y a une conséquence au niveau européen. La France a perdu de son influence. C'est très clair. Donc bien sûr que du coup, ça complique le travail pour tout le monde. Mais vous savez, cette instabilité, elle a des conséquences économiques, elle a des conséquences sociales, elle a des conséquences démocratiques. Mais pour moi, il n'y aura pas de stabilité sans justice. Parce que depuis 8 ans, bien le mandat d'Emmanuel Macron, il est marqué par des injustices sur lesquelles il ne veut pas revenir. Donc il faut qu'il y ait des pas significatif vers plus de justice pour gagner en stabilité. Je le pense possible.
pour revenir à une forme de stabilité. Il a proposé donc comme Premier ministre M. Sébastien Lecornu. Il parle d'une nouvelle méthode. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut peut-être aussi vous dire, vous êtes proche de Carole Delga, hein, si je me trompe pas. Vous, en tant qu'élu socialiste, est-ce que vous croyez à cette nouvelle démarche, à cette idée de construire une forme d'accord démocratique?
Alors, il y a clairement une rupture de confiance. Emmanuel Macron n'a pas respecté le vote issu des urnes il y a un peu plus d'un an à la suite de la dissolution qu'il a voulu. Donc, bien sûr qu'il y a une rupture de confiance. Là, il réitère. Il ne respecte pas le vote d'il y a un an. Donc, il nomme un de ses proches. Donc, non, il n'y a pas de confiance. Mais par contre, il y a cette responsabilité en tant que femme politique et cette quête de stabilité dont je vois bien les graves conséquences de l'instabilité politique française partout, bien sûr en France, pour notre quotidien, mais aussi au niveau Europe et au niveau européen, mais aussi du coup au niveau mondial. Hein. Donc moi je suis en quête de stabilité et cette responsabilité elle exige d'être à l'écoute et... Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait un dialogue et qu'on arrive à trouver un compromis. On y arrive au niveau européen sur un certain nombre de propositions, de dossiers, dans le sens de la construction européenne, quand la droite ne s'allie pas à l'extrême droite et trahit ce pacte-là. Hein. Donc on sait bien que c'est extrêmement fragile et de plus en plus fragile depuis un an au Parlement européen. Mais non, moi je serai là toujours pour être en responsabilité et vers cette stabilité dont nous avons besoin pour faire des gains pour nos populations et lutter contre les injustices. Je veux dire, cette réforme des retraites, elle a été ultra majoritairement contestée par les Français. Ça, il faut que notre président de la République, il l'entende. Cette injustice fiscale qui fait que les fortunes françaises, elles ont doublé leur patrimoine durant les mandats d'Emmanuel Macron, alors que la majorité de nos concitoyens ont vu baisser leur pouvoir d'achat. Et parce qu'il y a eu une forte inflation. Enfin, je veux dire...
On est passé par des périodes un peu compliquées.
Extrêmement difficiles. Hein, mais c'est pas possible qu'il y ait eu un creusement des inégalités et pas d'action public, volontariste, pour réduire ces inégalités, parce qu'on est sur cet enjeu démocratique d'acceptabilité.
Alors je terminerai par une dernière question. Voilà, on est quand même encore au début de mandat, il reste 4 années de mandat européen. Vous avez une ambition personnelle, un sujet sur lequel vous voudriez travailler, suivre ici, que vous voudriez suivre ici au Parlement européen?
Ah oui, alors j'en ai plein. Mais ma conviction, c'est de dire, moi je serai toujours à l'écoute aussi de nos concitoyens qui m'entourent pour porter leur projet. Parce que l'Europe, c'est aussi porter un projet d'infrastructure, par exemple de mobilité, notamment dans le sud de la France, qui a été en déficit d'investissement. C'est aider une entreprise à créer plus d'emplois, à innover, quel que soit le domaine, sur des activités traditionnelles comme émergentes. C'est aider une association qui veut justement travailler sur cette dimension européenne transfrontalière dans le domaine de la culture. Voilà, ça c'est pour moi cette écoute-là et cette proximité. Ce sera toujours majeur durant tout mon mandat, mais comme je le disais tout à l'heure, cette agriculture méditerranéenne, reconnaître que nous avons cette spécificité avec l'eau qui nous manque tant et qui demande d'être si innovant, mais aussi la justice fiscale. J'intervenais hier sur la taxation des services numériques. Oui, je disais les patrimoines français qui ont doublé pour les plus riches dans notre pays, mais les GAFAM et toutes ces plateformes numériques qui ont engrangé des bénéfices, mais records chaque année. Là, nous avons besoin, même si les États-Unis se sont retirés justement de l'accord fiscal porté par le OCDE, là, l'Europe, elle doit être souveraine et taxée pour pouvoir justement avoir ses ambitions. Parce que moi, j'ai des ambitions, mais je sais aller chercher les moyens. Et ce n'est pas les entreprises qui sont dans notre quotidien, nos PME, nos retraités, à payer ces ambitions. C'est là où il y a justement une accumulation, une production de richesses, et notamment sur les services numériques.
En tout cas, Madame Fita, on va suivre cette politique fiscale avec vous. Pour ce qui nous concerne, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site web de votre radio et sur toutes les plateformes de podcast. Merci Madame Fita pour cet échange riche et varié. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne.
Merci beaucoup à vous et vive l'Europe.